Frères et sœurs bien-aimés, dimanche prochain, nous accueillerons en cette église Monseigneur l'évêque qui viendra dispenser le Saint-Esprit dans le sacrement de la confirmation à trois jeunes filles de notre pays d'Oï. C'est l'occasion pour nous de nous préparer à cette cérémonie et de demander à l'Esprit-Saint de renouveler en nous les dons qu'il nous a accordés au jour de notre confirmation. En effet, le sacrement de la confirmation est avec le sacrement du baptême et le sacrement de la communion l'un des sacrements qui fait de nous un véritable chrétien. Pour être chrétien, il ne suffit pas d'avoir le baptême et la communion, il faut également avoir reçu le don de l'Esprit-Saint qui est confirmé ce jour-là en notre âme. Alors nous pouvons dire avec saint Paul que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Saint Paul est le grand docteur de l'Esprit-Saint. Il nous dit que nous ne savons pas prier comme il faut. Et qui ici n'en fait pas l'expérience? Mais poursuit le grand apôtre, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit-Saint vient au secours de notre faiblesse. C'est lui le maître de la vie intérieure. Cette vie que l'on peut appeler la vie spirituelle est une vie spirituelle parce qu'il nous dit « Spiritus », le Saint-Esprit. Comme la bienheureuse Vierge Marie, le confirmé demeure à l'ombre du Saint-Esprit. Il établit en nous sa demeure. Il nous permet, nous dit saint Paul, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Chaque fois que nous confessons dans la foi que Jésus est le Seigneur, pas simplement un homme parmi tant d'autres, pas même un prophète parmi tant d'autres, mais le Fils du Dieu vivant, voilà que c'est l'Esprit-Saint qui nous permet de porter cet acte de foi. De même, nous dit saint Paul, c'est l'Esprit-Saint qui nous permet d'entrer dans cette relation qui unit Dieu le Fils à Dieu le Père. Nous pouvons, dans le Christ Jésus, appeler Dieu Abba, c'est-à-dire notre Père. Et Abba, en hébreu, c'est même avec familiarité le nom par lequel les enfants appellent leur Père. Papa, pourrions-nous dire. C'est dire à quel point cette adoption filiale que nous avons reçue au baptême a fait de nous des enfants de Dieu dans le Christ Jésus par l'Esprit-Saint et que nous allons alors entrer dans cette famille de Dieu et nous avons Dieu pour Père. L'Esprit-Saint nous est donc déjà communiqué au jour du baptême, mais sa présence est confirmée en nous. Confirmé. Il vient marquer notre âme d'une empreinte indélébile. Qui a reçu le Saint-Esprit lui appartient. Qui a reçu le Saint-Esprit a reçu sept dons sacrés qui nous permettent de devenir chrétiens, ou pour reprendre une ancienne image de la tradition de l'Église, avec cette marque indélébile, nous sommes faits soldats du Christ. Non pas soldats pour mener des guerres avec des bombes, mais soldats du Christ pour témoigner du Christ en toute occasion de notre vie. Soldats du Christ parce que nous sommes appelés à toujours répondre lorsqu'on nous demande de rendre compte de notre foi et le Seigneur nous met en garde. Ne vous inquiétez pas. Pour savoir qu'est-ce qu'il faudra que je dise tel jour à telle heure lorsqu'on me demandera de rendre compte de ma foi, le Seigneur nous dit, pas d'inquiétude, l'Esprit-Saint viendra au secours de votre faiblesse. C'est lui qui répondra en vous. Nous avons un exemple éclatant lors de l'égorgement du père Hamel auprès de l'autel du Seigneur, refusant de se mettre à genoux devant ses assaillants, malgré son grand âge, luttant comme il pouvait pour rester debout. Il redit les mêmes paroles qu'il venait de commenter dans l'Évangile, « Arrière, loin de moi, Satan ». Ou encore sainte Cécile, au moment le plus grave de son martyre, reçut cette force intérieure, voilà pourquoi elle est la patronne des musiciens, d'entonner, malgré les souffrances qu'elle endurait, les cantiques de l'Église. C'est le Seigneur, l'Esprit Saint, Seigneur de nos âmes, qui nous permet de répondre à ses aspirations. Et dimanche prochain, alors que nous verrons l'évêque imposer les mains à ces jeunes filles, nous nous souviendrons que nous avons reçu de Monseigneur Théas, de nos évêques précédents, ce don de l'Esprit Saint, accompagné de sept dons que je vais commenter pour que cette semaine, nous puissions véritablement nous préparer à cette fête. Le premier don qui est inscrit dans la devise du pays Toi, c'est le don de crainte. Le Toi ne craint que Dieu et accessoirement le tonnerre et l'avalanche. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas immédiatement le réflexe « Oulala, je vais me faire battre par le bon Dieu ». Le don de crainte est une vertu essentielle. C'est de reconnaître que je suis une créature et que Dieu est mon créateur. Et que même si je suis une créature spirituelle appelée à une dignité immense, celle d'être enfant de Dieu, je ne dois pas pour autant manquer de respect à mon Père. Baisse les yeux effrontés, pouvons-nous dire à nos enfants lorsque nous les élevons. Eh bien, nous n'avons pas à nous comporter avec le bon Dieu comme des enfants effrontés et capricieux. Nous avons à bien reconnaître qu'il y a Dieu là-haut dans le ciel et bien présent dans notre vie et dans notre âme, et que ses chemins ne sont pas nos chemins et ses pensées ne sont pas les nôtres. Voilà le don de crainte qui nous permet de comprendre eh bien, que nous avons une place ici-bas que le bon Dieu nous a assignée et que nous n'avons pas à être revendicatifs. Nous avons, comme la bienheureuse Vierge Marie, à cultiver cette crainte de Dieu. « Sois sans crainte, Marie, lui dit l'archange Gabriel, lorsque celle-ci a entendu le nom divin pleine de grâce par laquelle l'appelait l'archange au nom du Dieu trois fois saint. » Cette crainte, c'est l'humilité. Que dira Notre-Dame ? Il a posé les yeux sur l'humilité de sa servante. Humilité, humus, la terre, avoir le sens de la terre et l'âme dirigée vers le ciel, sans jamais se prendre pour Dieu, mais acceptant dans la foi que ses chemins ne sont pas les autres et de faire l'acte de foi et de confiance d'avancer à la rencontre du Seigneur. À ce don de crainte succède le don de piété. La piété, c'est cette vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas simplement nous qui parlons. Le mot essentiel dans l'ancienne alliance qui caractérise le peuple élu comme nous, peuple nouveau d'Israël, c'est écoute. Écoute, Israël, écoute, Église du Seigneur présent sur tous les continents. Et une fois que tu auras écouté, écouté le bon Dieu qui te parle dans l'intimité de ton cœur, lorsque tu auras écouté mystérieusement le Seigneur t'apaiser, te consoler, lorsque tu auras supplié l'Esprit Saint de pouvoir méditer les Saintes Écritures et de savoir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, eh bien voilà que tu pourras répondre à ce Dieu qui t'appelle à venir à sa suite. Le don de piété, c'est donc le don de cette vie pieuse animée de la prière. En ce mois du rosaire, alors que nous contemplons Notre-Dame armée de son chapelet, nous invitant à prier, nous la contemplons dans la chambre haute du Cénacle, en prière, au milieu des apôtres, alors qu'elle attend le don de l'Esprit-Saint. Voilà que nous avons, avec Notre-Dame, à prier, à ouvrir notre âme, et comme elle, à garder et méditer chacun des événements de la vie du Seigneur, et parce que ces mystères nous dépassent et que nous les recevons par le don de foi, voilà que nous demandons à l'Esprit-Saint qu'il renouvelle en nous ce don de piété pour tous ceux qui ont du mal à prier, pour tous ceux qui ne savent pas comment prier. Voilà le secret, l'Esprit-Saint et le modèle, la Vierge Marie. Au don de crainte et de piété arrive le don de conseil, car l'Esprit-Saint est l'esprit du discernement. Chaque fois que nous avons des décisions graves à prendre, ou lorsque dans notre entourage il y a de graves décisions qui vont engager la vie, qui vont engager un avis médical, qui vont engager la vie éternelle même, eh bien, nous avons à demander à l'Esprit-Saint de venir opérer en nous ce discernement nécessaire. Un discernement qui suppose le don de crainte pour bien reconnaître que nous sommes l'enfant de Dieu, qui suppose le don de piété parce que nous avons à ouvrir notre âme au Seigneur pour qu'il puisse opérer ce discernement, ce bon conseil. Et nous invoquons dans la tradition de l'Église Notre-Dame sous ce beau vocable, la mère du bon conseil. Ce don de conseil que nous demandons à l'Esprit-Saint, nous lui demandons également de nous aider à conseiller. Car bien souvent, parce que nous sommes reconnus chrétiens, parce que nous sommes père et mère de famille, parce que nous avons une position où nous exerçons l'autorité, on vient nous demander conseil. Et nous n'avons pas à nous dérober à ce conseil, nous avons à beaucoup prier. Car comme le dit l'apôtre Saint-Jacques, nous n'avons pas à taire une parole bonne et constructive. Mais parce que la vérité se fait toujours dans la charité, eh bien il faut que l'Esprit-Saint vienne non seulement nous aider à bien discerner ce conseil qu'il ne faudra pas taire, parce qu'il ne faudra pas qu'il entrave la vie éternelle. Pour vivre véritablement ce don de crainte, de piété, de conseil, voilà que le bon Dieu nous donne, dans le sacrement de la confirmation, ce don de force, la force qui doit nous décider. Certes, nous expérimentons notre faiblesse, par notre péché. Nous expérimentons, et bien que nous avons cette crainte de Dieu, Dieu est là-haut dans le ciel, même s'il est mon Père, je suis une créature ici-bas sur la terre. Mais pourtant, il faut bien de la force pour affronter, comme le Seigneur Jésus, agneau muet conduit à l'abattoir, les chemins de croix de nos existences. Lorsque nous voyons la bienheureuse Vierge Marie au jour de son Annonciation, eh bien, nous voyons l'archange Gabriel qui signifie la force de Dieu qui lui est communiquée. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Ne crains pas ! Que va-t-il dire à Saint Joseph lorsqu'il verra sa fiancée qui n'a pas touché enceinte ? Ne crains pas ! Voilà la force nécessaire. Après l'opération d'un discernement sous la conduite de l'Esprit-Saint, la force d'avancer. La force également de lutter contre le péché, saint Paul de nous dire, avec raison, et pour moi le premier, nous n'avons pas lutté jusqu'au sang dans notre combat pour le péché. C'est le Christ qui a versé son sang pour nous. Eh bien, nous demandons dans un monde de ténèbres la force nécessaire pour, modestement, transmettre la petite flamme de l'espérance et en vivre dès ici-bas. Pour ne pas que la flamme s'éteigne, voilà que nous accueillons l'Esprit-Saint. Arrive le don de science. Ce ne sera pas ni pour les mathématiques, ni pour la physique, ni pour les grandes études scientifiques. Le don de science, eh bien, nous permet de véritablement comprendre ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie telle qu'elle est ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma situation de famille, dans ma situation chrétienne ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Cela rejoint les grandes questions existentielles à laquelle toute âme doit répondre. Pourquoi suis-je ici-bas sur la terre ? Pourquoi le Seigneur m'a placé ici même en cette année parfois de désespérance de 2023, avec des guerres, avec des conflits en nos familles, avec un monde qui s'éloigne de Dieu ? Voilà que Dieu nous permet par le don de science de comprendre mystérieusement, par des convictions profondes de notre âme, ce que Dieu attend de nous. Nous avons un exemple dans le Nouveau Testament, c'est Siméon, le vieillard Siméon, qui dans sa prière avait reçu cette conviction forte, lui qui ne quittait pas le temple nuit et jour, il ne verrait pas la mort sans avoir vu de ses yeux de chair le Sauveur, le Messie que l'on attendait. Et le voilà comme poussé par l'Esprit-Saint dans ce temps opportun et que, voyant arriver la Vierge Marie, Saint Joseph se saisit de l'enfant et dit « Maintenant, ô Maître souverain, vous pouvez laisser votre serviteur s'en aller car mes yeux ont vu le salut que vous prépariez à la face de toutes les nations. » Eh bien, nous demandons au Seigneur ce don de science pour savoir ce qu'il attend de nous et pour pouvoir y répondre avec empressement, comme la Vierge avec empressement se rend au chevet de sa parente Élisabeth. Arrive le don d'intelligence. Le don d'intelligence pour pouvoir approcher chaque jour davantage les mystères de Dieu. ce catéchisme que l'on a pu, en des temps anciens, apprendre par cœur, des définitions, ces grands mystères que nous revivons chaque dimanche dans l'année liturgique qui nous est présentée, nous permet, comme la Vierge Marie, de garder et méditer chacun des événements de la vie de son Fils. Et la vie chrétienne n'est pas routinière, parce que à tel moment de notre existence, nous avons vécu telle fête avec telle ambiance, tel souci, et que telle autre année, ça sera dans une action de grâce, et que les fêtes se succèdent, mais que s'annonce pour nous la fête ultime, celle de la rencontre d'avec Dieu, ce bonheur sans fin, où il nous sera donné de le contempler. Alors nous demandons à l'Esprit-Saint, qui a une mission particulière, nous conduire vers la vérité tout entière, faire en sorte qu'aucun des disciples n'oublie ce que le Seigneur n'a enseigné, et bien de nous prendre fermement sous ses ailes pour demeurer à l'ombre du Puissant et pénétrer chaque jour davantage ces mystères de Dieu dont la plénitude nous attend là-haut. Enfin, le dernier don de l'Esprit-Saint est ce don de sagesse. Il ne suffit pas, par le don de conseil, de savoir ce qu'il faudrait faire trop tard. J'ai trop discerné, la situation est passée. Le don de sagesse nous permet, à un raisonnement théorique, d'ajouter la spontanéité quasi instinctive de la pratique. Une personne est en train de tomber, je ne suis pas en train de me dire « si je la prends par tel angle, peut-être que je vais réussir, trop tard elle est tombée ». Vous comprenez que le don de sagesse est de nous aider justement à pouvoir agir, réagir spontanément selon le bien. Le don de sagesse nous permet, eh bien, confession après confession, à l'ombre du Saint-Esprit, de nous aider à être plus réactifs, plus combatifs, plus instinctifs dans les choses de la foi, mais aussi dans notre vie quotidienne. Nous comprenons alors combien notre âme a besoin de cette présence sanctifiante du Saint-Esprit, qui est cette bonne graine semée en notre terre, parfois étouffée par les ronces ou par la dureté des pierres de notre âme et de l'existence. Eh bien, nous demandons à l'Esprit-Saint, avec le prophète Ézéchiel, que nous ne soyons pas des cœurs froids, des cœurs lourds, des cœurs durs, mais qu'au contraire, nous soyons des cœurs capables d'aimer et de nous ouvrir à la vie éternelle, des cœurs qui puissent aimer le bon Dieu et manifester cet amour à l'endroit du prochain. Puisse la Vierge Marie, en ce mois du rosaire, nous aider chaque jour à cheminer à la rencontre de son Fils. Ainsi soit-il.